Vous écoutez, on lit pour vous.
Innover, c'est d'abord échouer. Un texte de François-William Croteau paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. Je pratique l'agriculture urbaine depuis maintenant 12 ans. Chaque saison vient avec son lot de surprises et de déceptions. Depuis ma cuisine, j'observe à petite échelle l'évolution des légumes et des bleuets qui suivent de très près les humeurs du climat, à la fois source d'énergie et de défis. Cette année, par exemple, après avoir planté mes concombres, il a plu sans arrêt pendant plus d'une semaine. Résultat, ils ont pourri dans le sol. Parce que oui, si vous êtes un tant soit peu renseigné, vous savez que pour bien pousser, les concombres ont besoin d'un peu d'eau à la fois. C'est tout. Mon potager me permet aussi de suivre, à sa manière, l'évolution du climat. La première année où j'ai planté mes bleuetiers, je pouvais déguster mes premiers fruits vers la fin juillet 2025. En 2024, c'était à la Saint-Jean. Un mois de gagné, littéralement. Cette année, retour à la mi-juillet. Inutile de consulter Environnement Canada, mes bleuets me disent que le printemps 2024 a été plus chaud que celui de 2025. Avant de me lancer en agriculture urbaine, j'ai pris le temps de lire, de m'informer, de discuter avec des experts et d'observer ce que faisaient les autres. Bref, je me suis documenté avant de passer à l'action. Car, à l'origine, ma cour n'était qu'une grande surface asphaltée et la vieille voisine m'avait bien dit que rien ne poussait dans cet espace. C'est pourquoi je parle bien d'expérimentation. Car cultiver un potager à Montréal, surtout avec une adresse impaire, ce n'est pas une science exacte. Ma cour n'est pas en plein soleil, alors j'ai dû tester plusieurs combinaisons avant de comprendre ce qui poussait vraiment bien chez moi. L'innovation, c'est exactement ça. On s'informe, on teste une idée, on fait une preuve de concept, on évalue les résultats, puis on ajuste. Si c'est concluant, on passe à la mise à l'échelle. Sinon, on recommence, encore. Et encore, innover, c'est accepter de se tromper plus souvent qu'on ne réussit. Une organisation innovante se reconnaît à ses essais infructueux, à ses tentatives imparfaites. C'est ce parcours fait d'apprentissage et de résilience qui permet d'aller plus loin. Fondamentalement, innover, c'est apprendre. C'est développer des connaissances nouvelles et les ancrer dans l'expérience. C'est aussi générer des données pour mieux comprendre ce qui fonctionne et éviter de répéter les mêmes erreurs. Car si l'on veut obtenir un résultat différent, on ne peut pas faire toujours la même chose. Parfois, on réussit sans même savoir pourquoi. Par exemple, je n'ai jamais eu de problème d'écureuil dans mon potager depuis le tout début. Je n'ai aucune explication rationnelle à ce phénomène paranormal. Et la vieille voisine avait tort, ça pousse du tonnerre de Dieu dans cet espace. Or, quand on est à la tête d'un gouvernement, peu importe l'échelle, locale ou nationale, il devient très difficile de générer de l'innovation. Pourquoi? Parce que la prise de risque est politiquement périlleuse. Si un élu annonce qu'il souhaite investir dans l'expérimentation, en sachant que cela pourrait échouer avant de réussir, il sera rapidement accusé d'improvisation et de gaspillage des fonds publics. Il faut avoir la couenne dure pour oser prendre de tels risques et affronter la grogne populaire. Plusieurs l'ont appris à leurs dépens en essayant de nouvelles approches. Bien souvent, ce qui déclenche les plus vives critiques, ce n'est pas tant l'échec que l'absence de communication. Il faut le dire d'emblée, nous faisons de l'expérimentation et cela peut ne pas fonctionner. Il faut aussi avoir l'honnêteté d'avouer qu'on peut se tromper. Mais encore faut-il qu'on accepte collectivement de donner le droit à l'erreur à nos élus et à nos administrations publiques. Ce manque de souplesse nous condamne trop souvent à de grands projets figés lancés sans filet où la moindre erreur devient coûteuse, irréversible et politiquement intenable. Combien de projets auraient pu être améliorés, voire évités, si l'on avait pris la peine de tester à petite échelle, d'observer, de s'ajuster avant d'investir dans des aménagements permanents. L'erreur qu'on commet trop souvent, c'est de croire qu'innover signifie lancer de grands projets spectaculaires pour impressionner la galerie. Ce sont pourtant ces projets d'envergure qui génèrent le plus d'opposition, de résistance et de dépassement de coûts. Mieux vaut expérimenter modestement. Ce sont souvent les plus petites innovations qui engendrent les plus grandes transformations, car toute innovation, aussi discrète soit-elle, provoque un changement dans la vie des personnes, dans leurs habitudes, dans la culture même de l'organisation. Et pour réussir ce changement, il faut d'abord éviter de provoquer la résistance. Les campagnes électorales municipales battent leur plein partout au Québec. Je rêve d'entendre des candidats affirmer qu'ils vont expérimenter, qu'ils pourraient se tromper, qu'ils n'ont pas de baguette magique pour résoudre des problèmes complexes. Le pire, ce n'est pas de se tromper. Le pire, c'est de prétendre qu'on a toutes les réponses. Ce qui lasse et érode la confiance, c'est d'entendre les mêmes promesses simplistes face à des enjeux qui ne le sont pas. Et c'est encore plus désespérant quand elles viennent de ceux qui ont déjà gouverné et qui maintenant, depuis l'opposition, jurent qu'ils ont vu la lumière. L'innovation ne se proclame pas sur une pancarte électorale. Elle se prouve sur le terrain, à petite échelle, avec humilité et persévérance. C'était « Innover, c'est d'abord échouer », un texte de François-William Croteau, paru le 6 août 2025 dans « Le Devoir ».
Sous les pavés, les roses, un texte de Léa Strelitzky, paru le 9 août 2025 dans Le Devoir. J'ai trouvé, à la friperie, un livre de vieilles photos de Montréal. 30 ans de balades photographiques dans un Montréal que je connais et qui m'a vu grandir. J'aime beaucoup cette ville, tantôt anonyme, tantôt importante. Cette ville belle et laide à la fois, où plein d'erreurs d'urbanisme se font chaque décennie et où notre patrimoine se fait trop souvent avaler par des contremaîtres véreux ou des hommes d'affaires aux souliers qui brillent. La promesse d'un profit rapide détruit ce qui a parfois mis des siècles à se bâtir. Mais que Montréal soit un peu tout croche, varié et multiple, est aussi ce qui fait son charme. Contrairement à New York ou à Paris, et à toutes ces villes aux grands airs, ici, tu peux te contenter de la note de passage, ne pas trop chercher à être premier de classe, enfourcher ton vélo et partir en balade. Le peuple palestinien ne mourra pas. Voilà le graffiti qu'avait trouvé sur son chemin l'auteur du livre de photos que je feuillette. C'était écrit noir sur pierre, boulevard Saint-Laurent, et la photo est datée d'août 1982. Soupir. J'avais 6 mois. J'ai maintenant 43 ans, et les mêmes graffitis sont encore nécessaires sur les pierres de ma ville. 43 ans que je vis, 43 ans que je vois le peuple palestinien mourir. J'ai relu, dans la foulée du partage des chroniques de Foglia à la suite de sa mort, un texte qu'il avait écrit en 2009 intitulé « Pauvre Palestine » et qui m'avait fait revoir mon cours d'histoire sur la région depuis le plan de partition de l'ONU en 1947. Car, souvenez-vous, avant que le conflit israélo-palestinien meuble chaque soir le téléjournal, on l'étudiait aussi dans nos cours d'histoire. On l'apprenait comme on apprenait la Deuxième Guerre mondiale, puis celle du Vietnam, puis le Kosovo. C'était des guerres, point. On pouvait les étudier avec une sorte de distance qu'offrait notre adolescence. La cloche sonnait, le maître refermait le livre. Ça paraissait lointain. Les adultes s'en chargeraient. Mais maintenant, les adultes, c'est nous. Et j'ai bien beau essayer de changer le mal de place en trouvant que la pompe de la piscine de mon voisin fait trop de bruit. On est loin de l'époque où j'entendais la bande de Gaza dans la radio de mon père et pensais que Gaza était le chef d'une bande qui semblait avoir des problèmes. Maintenant, la réalité. Ce sont des enfants insupportablement affamés et des paysages lunaires de gravats à n'en plus finir que le plus corrompu des hommes politiques, tricheur et malhonnête, je vous épargne son nom, rêve de transformer en côte d'azur pour poupée gonflable, avec la même imbécilité vulgaire que le jardin de roses de la Maison-Blanche qu'il vient de raser pour y étaler son pavé. J'enroulerai des yeux jusqu'à la moelle. Ces insoutenables petits bonhommes puissants, à l'ego démesuré, qui s'offrent des tables de 20 mètres, parce qu'ils ont peur de se faire empoisonner, envahissent un voisin pour combler leur vide intérieur et tirent des menaces de tarifs à qui mieux mieux pour maintenir le chaos, comme un enfant de 3 ans qui ne veut pas faire sa sieste. On sait tout ça. Et on n'en peut plus de savoir. Année après année, voir toute cette destruction qui semble parfaitement légale. Rien n'arrête donc toute cette misère. Il n'y a donc rien à faire contre tous ces fous. Contre l'orgueil d'un conquérant qui cherche à anéantir un peuple, comme si un génocide avait déjà réglé quelque chose. Persécutés pour retrouver une terre soi-disant promise, qui devait être une réponse à la persécution. Bien sûr qu'il y a des millions de Juifs dans le monde qui voient le paradoxe. À commencer par l'ex-ambassadeur du Canada en Israël, qui confiait récemment en entrevue dans la presse « Je suis juif. Je suis extrêmement critique envers Israël » parce que je n'arrive pas à croire que des Juifs qui ont souffert pendant l'Holocauste font cela à d'autres personnes. Je n'en peux plus de tous ces non-sens. Je n'en peux plus de savoir que cette terre est peuplée d'humains sensibles et intelligents qui comprennent la base, mais vraiment la base même et simple de l'humanité. Cette simplicité de vivre, cette curiosité pour ce qui est, sans ce besoin complètement démesuré de conquête. Je sais qu'on est des milliards à comprendre qu'il ne faut pas affamer les enfants à des fins personnelles. On passerait presque pour des imbéciles de le dire. Comme si la force, la suprématie, avoir raison, était une loi non écrite de la jungle, et que quiconque ose y déroger et ne pas passer sa vie à s'y consacrer était un sombre crétin. Mais comment en est-on arrivé là? Comment peut-on être si nombreux à savoir et pourtant nager à ce point dans notre propre impuissance? La peur, le confort, les intérêts financiers? Comment ne pas devenir cynique quand le peuple qui a vécu l'une des plus révoltantes persécutions du dernier siècle mes ancêtres déportés en savent quelque chose, se retrouve maintenant le bourreau de ce nouveau siècle? Et comment ne pas virer fou quand la nation même qui a libéré tous ces gens d'une idéologie suprémaciste pave désormais les chemins de sa propre nation de cette horreur fasciste? Mais où sont les roses? C'était « Sous les pavés, les roses », un texte de Léa Streliski, paru le 9 août 2025 dans Le Devoir.
Choisir l'Ontario pour vivre en français, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 7 juillet 2025 dans Le Devoir. Ils ont choisi de s'installer en français au Canada, mais pas au Québec. Bien que la belle province accueille la majorité des immigrants francophones au pays, une réalité plus discrète se dessine ailleurs, celle des nouveaux arrivants qui s'enracinent en milieu minoritaire. Jeanne Edwige Ango Nguyamba est camerounaise d'origine. Quand elle a décidé de venir s'installer au Canada, son choix était fait. Elle voulait aller en Ontario. Même si des membres de sa famille vivent dans la ville de Québec, pour elle, l'Ontario était tout désigné. Après quelques semaines, c'est finalement à Cornwall que sa famille et elle ont choisi de vivre. On ne connaissait même pas la ville, raconte-t-elle. À moins de 90 minutes de Montréal, Cornwall est une ville bilingue de l'Ontario. Juste après leur arrivée au Canada, son mari y fait une première visite. Il décroche un emploi chez Walmart. Le couple n'hésite plus. Nous avons décidé de nous installer ici, de faire notre vie, des projets ici à Cornwall. L'idée d'évoluer en milieu francophone minoritaire ne les inquiète pas. Le couple estime que le bilinguisme de la ville est un avantage. Je voulais m'intégrer à la société anglophone aussi, mais sans toutefois perdre la culture française, explique Jeanne. Du coup, maintenant, je me force à m'exprimer en anglais, lance-t-elle. À leur arrivée, ils sont agréablement surpris de constater qu'ils peuvent vivre leur quotidien en français. Jeanne s'inscrit à des cours d'anglais, puis à une formation en informatique. Elle suit aussi des ateliers en ligne, pensés pour les femmes immigrantes. Je me suis rendu compte qu'ici, au Canada, tu ne peux pas fonctionner sans la technologie. Elle devait commencer un emploi en petite enfance, mais l'absence de place en garderie pour son propre bébé de 18 mois retarde son entrée sur le marché du travail. Malgré les défis, elle dit avoir été frappée par la qualité de l'accueil. La communauté ici à Cornwall est tellement accueillante. Pour sa fille aînée, elle choisit l'école francophone Rose des Vents. Je crois que, coûte que coûte, elle va apprendre l'anglais parce qu'on a une communauté anglophone ici. Donc, elle va prendre l'anglais sur le tas. Je ne voulais pas qu'elle perde son côté francophone. Elle-même continue de se former en français et suit les cours offerts par des organismes. Là-bas, au moins, s'il y a une garderie lorsque vous êtes en cours, il y a des femmes qui s'occupent des enfants. Communauté. Membre de l'Association des femmes immigrantes francophones, AFIF, de Cornwall, Jeanne y trouve un espace d'entraide et de rencontre. C'est une communauté qui élève les femmes et qui élève le monde. L'organisme offre des formations, du soutien, des ateliers, mais aussi des moments pour souffler. Les mercredis et jeudis, nous avons des cours de Zumba, de relaxation, des danses sportives. On se retrouve, on se détend, on se divertit, explique-t-elle fièrement. Avec le temps, elle découvre une solidarité rare. Sa communauté francophone, elle, lui tient à cœur. On est des femmes qui avancent, entraînent, qui se relèvent, aident, qui affrontent les défis, le fait avec les autres. C'est aussi grâce à ce réseau qu'elle a pu s'orienter. Ici au Canada, généralement, je constate que l'information fait partie du pouvoir. Lorsque tu n'es pas bien informé, ça va te perdre. Du coup, il te faut des personnes déjà établies dans cette ville pour te tenir par la main. Et c'est le rôle de l'AFIF, estime-t-elle. Un choix. Si Jeanne Edwidge-Ango Nguyamba a choisi l'Ontario, elle est loin d'être la seule. En 2024, environ 7,2% des immigrants francophones au Canada se sont établis hors Québec, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La majorité d'entre eux ont choisi l'Ontario, où vivent plus de 600 000 francophones. À Cornwall, une ville de 45 000 habitants officiellement bilingue, le français est la langue maternelle de près de 30 % de la population. « Je voulais vraiment que mes enfants soient bilingues, et moi également », résume Jeanne. D'autant que son identité est déjà marquée par cette dualité linguistique. Chez nous, au Cameroun, nous avons également deux langues, le français et l'anglais. Je ne voulais pas arriver au Canada et perdre cette culture anglophone. Avant de poser ses valises à Cornwall, elle obtient la résidence permanente. Contrairement à d'autres, elle dit que le processus a été fluide. Ce n'était pas vraiment difficile. Lorsque toutes les informations sont réunies, tout va vite, se réjouit la mère de famille. Depuis quelques années, le gouvernement fédéral tente justement d'encourager l'installation d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec. Il s'est donné comme objectif d'atteindre 12 % d'admission francophone hors Québec d'ici 2029, dans l'espoir de contrer le déclin démographique des communautés francophones en situation minoritaire. Pour y arriver, Ottawa mise notamment sur des volets d'immigration ciblés comme Entrée Express, mais aussi sur ces communautés francophones accueillantes, comme Cornwall. Jeanne Edwidge-Ango Nguyamba incarne cette nouvelle francophonie immigrante qui choisit de s'enraciner là où elle est minoritaire. « Ce n'est pas toujours facile, mais ici, on est bien entouré », dit-elle. Pour elle, vivre en français hors Québec n'est pas un risque à prendre, mais une occasion à saisir. C'était « Choisir l'Ontario pour vivre en français », un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 7 juillet 2025 dans Le Devoir.
Quand l'inclusion fait la force, un texte de Caro Lavigne, paru le 7 août 2025 dans le magazine Fugue. En ces temps où les reculs sont bien réels et les discours haineux se normalisent, il est plus que jamais essentiel de réaffirmer que l'inclusion fait la force. Cette force collective ne se construit pas dans les demi-mesures ni dans les exclusions silencieuses, mais bien dans une volonté ferme de transformer nos institutions, nos milieux de travail, nos politiques publiques et nos imaginaires. La vice-présidente de la CSQ, Anne Dionne, lance un vibrant appel à toutes et tous pour inclure véritablement dans notre société les personnes trans, non-binaires, ainsi que l'ensemble des communautés de LGBTQIA+. Dans un environnement qui politise de plus en plus les droits et la dignité des personnes de LGBTQIA+, il est crucial de mettre en lumière la manière dont la discrimination et la stigmatisation continuent d'affecter cette communauté. Pour lutter contre ces préjugés, il faut oser élargir notre conception du vivre ensemble et renforcer les bases mêmes de la démocratie, de la justice sociale et de la dignité humaine, affirme Anne Dionne. Un rapport qui soulève des questions. Celle-ci interroge d'ailleurs le rapport du Comité des sages, créé par le gouvernement Legault, dont ne se trouve parmi ces trois sages aucune personne trans ou non-binaire. C'est d'autant plus inquiétant que nous constatons un manque d'ouverture flagrant dans les prises de décisions gouvernementales envers les personnes issues des communautés de LGBTQIA+, poursuit Anne Dionne. De nouvelles normes discriminatoires. Cette dernière cite par exemple le ministère de la Sécurité publique, qui annonçait en juin dernier que les personnes trans incarcérées seront désormais détenues selon leur sexe attribué à la naissance seulement. Ou encore que le ministère de l'Éducation, dans un projet de règlement concernant les règles de conduite dans les écoles, prévoit l'utilisation des titres binaires « Madame » ou « Monsieur » pour s'adresser au personnel de l'école dès la rentrée, laissant ici pour compte les personnes non-binaires. Il aurait pourtant été si facile et beaucoup plus respectueux, plus inclusif, de prévoir dans le règlement que les personnes non-binaires pourraient simplement indiquer comment elles souhaitent être interpellées, déplore la vice-présidente de la CSQ. Une enquête américaine troublante. Aux États-Unis, les résultats d'une récente enquête du Center for American Progress, CAP, démontrent que la communauté LGBTQI+ continue de subir des taux de discrimination nettement plus élevés que les personnes non LGBTQI+, et ce, dans tous les environnements interrogés, y compris dans les soins de santé, l'emploi et les milieux scolaires. Comme nous le rappelle le rapport sur l'augmentation des niveaux de malaise, ce que les élèves du secondaire pensent de la diversité sexuelle réalisée par Gris Montréal, il n'y a pas seulement chez nos voisins américains que l'on voit nos sociétés marquées par une hausse des niveaux de malaise face aux réalités de LGBTQIA+. Au Québec aussi, la tolérance envers la diversité sexuelle demeure fragile. Peu importe le profil socio-démographique des personnes, affirme la leader syndicale. La force d'une société ouverte. Cette dernière ajoute « Une société ouverte à la pluralité des genres est une société où les stéréotypes de genre sont activement déconstruits et où toute personne bénéficie d'un climat propice au déploiement de son authenticité, en toute sécurité. » En terminant, la vice-présidente de la CSQ soutient que la véritable inclusion des personnes trans et non-binaires dans la société nécessite que notre compréhension collective des genres, des sexes et des sexualités soit rebâtie en y incorporant le fait que ces dimensions sont fluides et sous l'emprise humaine. Il est temps d'agir avec cohérence, courage et solidarité. Parce qu'une société qui embrasse la pluralité des identités est une société plus forte, plus libre et plus humaine. Toute la société y gagne, conclut Andion. C'était « Quand l'inclusion fait la force », un texte de Caro Lavigne paru le 7 août 2025 dans le magazine Fugue.